BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va vous parler de Deep Tech aujourd'hui et de bioproduction. Alors c'était il y a quelques jours le sommet Hello Tomorrow qui rassemblait tout l'écosystème de la Deep Tech. Alors si je vous dis bioproduction, attention, il y a le principe de la biologie de synthèse. Hein, c'est l'étape d'avant qui consiste à modifier génétiquement des organismes. Et puis on connaît moins évidemment cette étape suivante qui s'appelle la bioproduction. Eh bien ça tombe bien, j'ai un expert avec moi en plateau pour en parler. Jean-François Beaubier, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Vous êtes partenaire au BCG, spécialiste des enjeux Deep Tech. Et avec vous, on va voir quelles sont justement les applications, les bénéfices de la biologie de synthèse. Et la première question, c'est qu'est-ce que c'est d'où ça vient?
Alors d'abord, ça fait des milliers d'années qu'on utilise des bactéries, des levures pour faire tout un tas de produits de la vie de tous les jours. Vin, fromage, bière. C'est pas du tout nouveau pour l'humanité. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a 40 ans à peu près, on a réussi à modifier le génome de ces organismes, qui sont des petites usines très efficaces. Et donc, on a réussi à les modifier pour leur faire faire ce qu'on voulait. Et par exemple, un des premiers produits qui a ouvert un énorme marché, c'était l'insuline humaine, qui a été approuvée dans les années 80 et qui, aujourd'hui, c'est un marché de 20 milliards de dollars. Ça, c'est utilisé par des dizaines de millions de gens tous les jours. Donc c'est réel et
on va même plus loin aujourd'hui parce qu'on peut même proposer des choses pour l'environnement, hein, c'est ça?
Alors exactement. Alors la biologie de synthèse a d'autres bénéfices que faire ce qu'on veut. Donc comme on disait, hein, c'est très large. On peut utiliser ces organismes pour faire différentes choses. Mais il y a un autre intérêt, c'est qu'elles le font de manière extrêmement efficace. Et en fait, quand on regarde par rapport à des techniques comparables qui sont déjà établies, les bilans carbone sont bien meilleurs en biologie synthèse, jusqu'à moins 90%.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques applications concrètes, puis justement, les entreprises qu'on connaît sans doute moins qui sont sur cet univers?
Alors, historiquement, donc, c'était la pharma, qui était la première industrie. Donc, on a parlé de l'insuline, mais aujourd'hui, on s'en sert pour faire des anticorps, on s'en sert pour faire des thérapies géniques. Il y a à peu près 70 milliards de dollars dans le monde aujourd'hui qui sont réalisés grâce à ces micro-organismes qui font ces produits-là. Et nous, dans le rapport, on s'est intéressé à trois domaines qui sont plus industriels.
Oui.
Donc le premier, c'est la chimie de spécialité. Donc là, on va trouver des molécules, par exemple. Oui. Exactement, tout à fait. Donc dans la cosmétique, on va trouver des produits comme le squalane, par exemple. C'est assez peu connu, mais c'est un produit essentiel dans la cosmétique. C'est un marché de 150 millions de dollars par an. C'est fait par une entreprise en ce moment qui s'appelle Givaudan en Suisse.
Oui.
Et avant, on devait tuer des requins pour récupérer la molécule dans leur foie. Maintenant, c'est beaucoup plus efficace. On fait en bioproduction. C'est mieux pour l'environnement et c'est mieux pour les animaux. La deuxième industrie, c'est autour de la nourriture. On a tout un tas de tartes françaises qui travaillent à par exemple à remplacer les produits d'origine animale. Donc c'est quand même 15% des émissions, tout ce qui vient des vaches, de la viande,
ce genre de choses.
Ouais. Exactement. Donc par exemple en France, on a une entreprise qui s'appelle Stand Innovation et ils cherchent à faire de la caséine qui est la principale protéine du lait et donc de manière entièrement végétale sans animaux. Donc ça c'est la deuxième application.
Donc, et la cosmétique, enfin la transformation de la chimie, la nourriture et puis
le dernier, c'est une industrie qui est très vaste et qui va être hyper importante dans le cas de la transition écologique. C'est tout ce qu'on peut faire avec la pétrochimie.
Oui.
Vous la trouvez dans vos vêtements, vous la trouvez dans les plastiques, vous la trouvez à vraiment plein d'endroits. Et cette chimie-là, comme elle est à base de carbone, faut pas oublier que on parle d'énergie fossile parce que il y a très longtemps c'était des organismes vivants. On peut faire les mêmes choses avec la bioproduction et par exemple les bioplastiques.
D'accord. Et donc avec derrière pour la chaîne de valeur dans le recyclage, ça se fait plus facilement.
Exact.
C'est un chiffre. Le marché pourrait atteindre 200 milliards de dollars en 2040 hors pharma. Donc contre 30 milliards aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous en parle, pour dire voilà, il y a des opportunités. Le défi aujourd'hui de tout ça, on sent quand même, c'est le passage à l'échelle, parce que tout ce dont vous nous parlez, c'est pour ça que je vous parlais aussi des entreprises qui étaient derrière. Est-ce que c'est des grands déjà de alors il y a dans la pharma, mais dans d'autres domaines. Voilà, comment on fait justement? Pourquoi est-ce si compliqué d'y arriver?
Alors nous, on s'est intéressé parce que c'est un sujet qui revient très souvent dans les discussions avec nos grands clients, parce que à cause de tous les intérêts qu'on a mentionnés tout à l'heure, il y en a un autre dont on parlera aussi, c'est qu'on peut utiliser, on peut produire proche maintenant, parce que c'est tout ce qu'on a besoin, c'est de sucre, donc on peut produire très proche du consommateur final, c'est un autre intérêt. Maintenant, en termes d'enjeux, cette industrie, on l'a dit tout à l'heure, elle a été historiquement commencée par la pharma pour des bonnes raisons, hein, et parce que c'était là où il y avait le plus de valeur. Faut savoir que 1 kilo de produits pharmaceutiques, ça peut valoir jusqu'à 100 000 dollars le kilo. D'accord. Donc c'est énorme. Et donc, ils étaient pas très préoccupés par les questions de coût. C'était pas le sujet majeur.
En plus, on n'était pas obligé de construire des usines, des méga usines.
Voilà, c'était des petites usines, des petites quantités. L'insuline, faut savoir, c'est 50 000 tonnes par an. C'est tout petit. Donc c'était pas un problème de faire cher et en petite quantité. Maintenant, quand on rentre dans un monde plus industriel, là, on a besoin de deux choses. On a besoin de pas cher et de grandes quantités.
De réduire les coûts.
Et donc l'enjeu aujourd'hui qu'on a, c'est comment on fait pour avoir les deux à la fois. Alors là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors je sais pas par laquelle vous voulez qu'on commence.
Allez, commençons par la mauvaise.
Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est pris dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que pour qu'on baisse les coûts, il va falloir qu'on crée des usines de grande taille. Un peu comme Elon Musk a fait quand il a introduit les notions de gigafactory pour baisser les coûts des batteries électriques. On aura besoin d'usines de taille gigantesque. On pense qu'elles coûteront à peu près 300 millions de dollars pièce. Des très grandes usines qui vont permettre de baisser les coûts jusqu'à 50% par l'aspect industriel, et puis avec d'autres technologies on pourra aller jusqu'à 90%. Mais le problème, c'est que pour qu'on construise ces usines, eh bien il faut des commandes. Et le problème, c'est que les industriels, ils veulent pas passer des commandes tant qu'ils sont pas sûrs que les coûts sont bas. Et donc, on est pris dans un cercle vicieux. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être un moyen de s'en sortir.
Alors, c'est lequel? Parce que j'imagine, donc, il faut atteindre l'échelle donc, pour construire ces usines. Il faut prouver, vous dites, que les coûts baissent à l'échelle. Et vous avez... Alors, qu'est-ce que vous avez identifié un petit peu pour ceux qui veulent s'y intéresser, justement, qui nous écoutent et nous regardent?
Alors, quand tout se passera bien et qu'on aura bien mis en place cette industrie, en fait, ce sera pas très compliqué, parce que des grands industriels, il y en a qui sont déjà actifs, hein, comme L'Oréal, par exemple, en France, eh bien, ils passeront des commandes. Avec ces commandes, on pourra aller voir une banque, on pourra faire un prêt, on pourra construire l'usine, ce sera pas compliqué.
Donc, faut que des leaders se penchent sur...
Donc, on a besoin de leaders qui passent des commandes. Mais on aura aussi besoin, au tout début, on pense, de l'État. Parce que, de toute façon, historiquement, quand on regarde la deep tech, quand on regarde l'industrie spatiale, l'Internet, etc., ça a toujours commencé par une implication forte de l'État. Et si on regarde, par exemple, les États-Unis, il y a deux grandes usines qui sont en train de se monter. Il y en a une en Illinois qui s'appelle la IFAB, et ils ont réussi à monter un financement de 680 millions de dollars. Et il y en a une autre en Virginie. Pour l'instant, ils sont entre 150 et 200 millions de dollars, mais ils le construisent par étapes, donc il y aura d'autres financements.
En plus, ça va dans toute la politique de réindustrialisation voulue par l'administration Biden.
Exactement, la réindustrialisation décarbonée avec ce qu'ils appellent le fameux Inflation Reduction Act. Donc effectivement, c'est très soutenu par l'État fédéral. On y viendra tout à l'heure, mais il nous faudrait des mécanismes probablement similaires en Europe.
Oui, justement, parce que vous parlez des États-Unis et aujourd'hui l'Europe, la France, est-ce qu'ils sont parce que quand on entend ce type d'investissement, ce montant d'investissement, on se dit on va pas y aller.
Alors faut qu'on commence par le fait qu'on a quand même des atouts à jouer. D'abord, à l'heure où on se parle aujourd'hui, l'Europe dispose de deux fois les capacités de production des États-Unis. À l'heure où on se parle, ça va changer, mais donc on historiquement on était bon, on avait une industrie fortement ancrée, on a des savoir-faire. On a aussi beaucoup de start-up sur la partie que vous avez mentionnée en amont, c'est-à-dire les gens qui développent les micro-organismes et qui permettent de faire les molécules. Rien qu'en France, il y a au moins 4 start-up qui travaillent sur ces sujets-là et qui développent qui développent des molécules intéressantes. Maintenant, là où on va avoir des défis, je pense, j'en vois deux. Il y en a un, on en a parlé tout à l'heure. On va avoir besoin de financement. Ça suffira pas. Et c'est important qu'on ait des donneurs d'ordre.
Donc c'est là où il y a des donneurs d'ordre, mais aussi l'État qui doit intervenir.
Et il faudra des interventions, probablement au niveau européen et français. Il y a des discussions en cours. Ça devrait se faire, mais c'est dommage que ce soit pas un peu plus rapide. Et puis un deuxième sujet qui est quand même important, c'est que la matière première de ces de cette bioproduction, c'est la biomasse. C'est des aujourd'hui, pour l'instant, la principale matière première, c'est le sucre, en fait. Mm-hmm. Alors demain, il y en aura d'autres. On pourra en parler d'ailleurs si on a envie. On peut utiliser les déchets de par exemple les égouts. On peut même utiliser le CO2 pour donner mm-hmm. à manger à ces micro-organismes. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement le sucre.
Et donc, faut avancer. Et puis, il y a un autre sujet aussi dans ce dont vous nous parlez. C'est, j'imagine, comme dans d'autres domaines, c'est les talents. Il faut trouver les bonnes.
Alors, les talents, on les a. C'est comme je disais tout à l'heure, on se bat à jeu très égal avec les États-Unis aujourd'hui en termes de talents. Maintenant, comme toujours, il faudra quand même former parce que quand on interviewe les gens là sur ces usines-là, typiquement, quand on va construire un site industriel, il faudra être quand même capable de recruter plusieurs dizaines d'employés capables d'opérer ces machines.
Je reviens sur le côté industriel. Le problème, c'est alors il y a le coût de l'énergie quand même dont il faut
exactement tenir
compte, surtout dans les enjeux politiques. On voit bien que c'est ça devient compliqué pour faire tourner ces usines. Vous avez dit il faut 400-600 millions aux États-Unis pour investir dans tout ça. Donc ça fait des sacrées usines. Et puis vous parliez du sucre, mais c'est pas aussi évident parce que selon les pays, on achète plus ou moins cher.
Alors c'est un des problèmes qu'il faudra contrer en Europe aujourd'hui. Quand vous lisez notre rapport, vous verrez que le sucre, ça représente entre 25 et 50% des coûts d'exploitation d'une usine. Ouais. C'est important. Et en Europe, on a la politique agricole commune qui fait que, pour simplifier, on paye à peu près deux fois, les industriels européens payent à peu près deux fois par tonne le prix qu'ils paieraient aux États-Unis ou au Brésil, typiquement, pour comparer. Et ça, c'est par exemple un sujet en ce moment. Comme vous le savez, il y a une usine là, qui est en redressement judiciaire qui s'appelle Metabolic Explorer, qui est basée à Amiens. Et quand vous lisez leur principe, ils disent qu'ils sont compétitifs, mais leur principal problème, c'est le coût du sucre.
Ouais, le coût du sucre, et donc on voit ça, et puis on voit, hein, il va falloir travailler, vous l'avez dit, sur les générations futures de matières premières, hein, les déchets, le carbone, le bois, et puis on pourra même utiliser la lumière du soleil, c'est ça ?
C'est ça, à terme, on pourrait utiliser directement la photosynthèse. Donc aujourd'hui, quand on utilise du sucre, en fait, on utilise indirectement la photosynthèse, c'est-à-dire que la betterave ou le maïs qu'on a utilisé pour faire le sucre, il a pris la lumière du soleil, il l'a capturé, c'est ça qui est la source d'énergie. Donc demain, ce qu'on envisage, c'est de modifier des algues génétiquement qui utiliseraient directement la lumière du soleil, et donc les algues resteraient dans l'usine. Et donc ça, c'est plutôt stade, c'est plutôt des développements d'ici 10 ans, mais néanmoins, il faut les préparer.
Ouais, il faut les préparer aujourd'hui.
Voilà, exactement.
On l'a bien vu, surtout par rapport au montant que vous mentionnez. Merci Jean-François Baubier, partenaire au BCG, spécialiste des enjeux deep tech, et puis donc là, cette bioproduction. Hein. Regardez un peu le sujet, parce que c'est quand même un marché à 200 milliards de dollars. Hein. Donc si on se positionne bien, vous savez, c'est toujours la prime au premier arrivant. Donc n'hésitez pas à aller revoir ce rapport, notamment du BCG sur ce sujet-là. Merci Jean-François d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.